Théologie fondamentale, Père Philippe, 9 mai 1984, Saint-Joseph.
Un prophète n'est vraiment prophète que s'il est conscient de ce qu'il exprime. Sinon, c'est parole d'instinct de prophétie. Sinon, on parle d'instinct de prophétie. Or, on a vu que l'action prophétique pouvait être abstraite des sens, par exemple à l'aide de formes imaginatives. Peut-on alors encore parler de prophétie dans ce cas-là? Oui, la conscience ne relève pas des sens, mais de l'intelligence. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas les sens qui nous donnent la conscience, c'est l'intelligence. Vous nous avez dit que saint Thomas était pour nous, en théologie fondamentale, un moyen pour réfléchir. Mais sur quoi? Sur ce qu'il nous dit. Sur ce qu'il nous dit, c'est-à-dire ici, sur la prophétie. Essayez de réfléchir sur ce que représente le mystère de la prophétie. C'est ça que nous devons essayer de comprendre. C'est réfléchir. Saint Thomas nous fait réfléchir. C'est ça le propre du théologien. Le théologien nous fait réfléchir sur le mystère. Nous sommes en présence d'un mystère qui est le mystère de la prophétie. Le mystère de la prophétie, vous voyez, chevauche entre le point de vue de la foi et puis tous les charismes. Alors, on doit essayer de comprendre ce que représente exactement la prophétie par rapport au charisme, d'une part. Donc, c'est une action en vue du bien utilitaire. Et d'autre part, comprendre le lien avec la foi. Toute notre foi repose sur le mystère de la prophétie. Parce que Dieu a parlé à travers des hommes qui sont des prophètes. Et la parole transmise par les prophètes est une parole de Dieu. Vous voyez la différence avec... Alors, il y a la prophétie charismatique de certains, et puis il y a la prophétie officielle de l'Église. Ça fait quelque chose de très très différent. La prophétie charismatique. Ma foi ne repose pas sur la prophétie charismatique. Heureusement pour ma foi. Elle ne repose pas sur... Mais elle repose sur une prophétie quand même, une parole prophétique qui est reconnue par l'Église comme officielle. C'est la grande révélation faite à travers les prophètes. C'est la grande révélation faite par le Christ. Vous voyez ? Là, une question très difficile, très délicate. Ici, vous voyez, on prend le traité de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? De façon tout à fait générale. Aussi bien la prophétie d'Ézéchiel que la prophétie de Jésus. Ou que vous pouvez être prophète à certains moments. N'est-ce pas? Ou que vous avez connu des personnes qui avaient un don de prophétie. Mais il y a quand même une très grosse différence entre la prophétie que Jésus possède, que Marie, reine des prophètes, possède, et une prophétie de tel ou tel type particulier, de telle ou telle personne particulière, qui ont pu lui dire des paroles prophétiques. C'est évident, ils ont pu dire des paroles prophétiques, mais qui n'engagent pas notre foi. Bon, alors, hein, c'est ça. Sur quoi saint Thomas nous fait réfléchir? Alors, nous étions arrivés, je crois, à la question 174. Les divisions de la prophétie. Au sujet des diverses sortes de prophéties, nous nous poserons 6 questions. Quelles sont les espèces de prophéties? La prophétie la plus haute est-elle celle qui se produit sans vision imaginative? Quels sont les divers degrés de prophétie? Moïse fut-il le plus grand des prophètes? Un bienheureux peut-il être prophète? La prophétie s'est-elle accrue dans la suite des temps? Plus on s'approche du terme, plus il y aura de prophètes. Hein? Donc plus vous avez de chance d'être prophète, hein? Plus on s'approche du terme. Alors, On va se poser la question, est-ce que, avec raison, que l'on divise la prophétie en prophétie de prédestination, de préscience et de menace? Et la division donnée par la glose à l'occasion de ce texte de saint Matthieu, « Voici qu'une vierge concevra », ne semble pas convenir. Cette division est la suivante. Il y a une prophétie qui vient de la prédestination de Dieu. Cette prophétie se réalise nécessairement de toute manière, indépendamment de notre libre arbitre. C'est de cette prophétie qu'il est question dans le texte de saint Matthieu. Il en est une autre, qui relève de la préscience divine. Notre libre arbitre y a sa part. Enfin, une troisième prophétie est la prophétie de menace, qui est un signe de la colère divine. Si vous ne vous corrigez pas, Jean de Ninive, si vous ne faites pas pénitence, Ninive sera détruite. Si vous ne faites pas pénitence, je ne pourrai pas soutenir le bras de mon fils. Vous voyez, c'est les prophéties de menace. Ce qui est commun à toute prophétie ne doit pas en former une espèce. Or, toute prophétie relève de la préscience divine. Car, dit une glose sur Isaïe, les prophètes lisent dans le livre de la préscience. Il ne faut donc pas poser comme une des espèces de la prophétie de préscience. Et ça, c'est tout simplement, c'est l'objection. Il y a une division. Or, dans cette division, ce qui est commun aux trois parties ne peut pas être une division. C'est les règles de la division en logique. Vous savez, les règles de la division en logique. Si on divise, il faut nécessairement que la partie divisée ne soit pas présente dans les autres parties. Hein? Autrement, ce n'est pas une division. Cependant, avec l'autorité de saint Jérôme, à qui est attribuée cette glose, hein, c'est la fameuse glose qu'on donne, les espèces, les habitudes et des actes en morale se distingue d'après les objets. Or, la prophétie a pour objet ce qui, dans la connaissance divine, dépasse la faculté humaine. C'est tout ce qu'on a donné comme définition de la prophétie. La prophétie regarde quelque chose qui provient de Dieu et qui dépasse nos connaissances humaines, notre manière de connaître. Or, la prophétie a pour objet donc ce qui, dans la connaissance divine, dépasse la faculté humaine. Voilà pourquoi l'on répartit la prophétie d'après la différence de ces objets en diverses espèces, selon la division donnée précédemment. D'autre part, on a dit plus haut que Dieu connaissait l'avenir de deux manières, tel qu'il est dans sa cause. Ainsi faut-il entendre la prophétie de menace. Celle-ci ne s'accomplit pas toujours, mais elle marque à l'avance l'ordre d'une cause à ses effets, ordre qui est parfois entravé par certains événements qui viennent par la traverse. On annonce quelque chose s'il n'y a pas de changement. Deuxièmement, Dieu connaît certaines réalités futures en elles-mêmes. Ou bien ces réalités doivent être produites par lui. La prophétie qui les concerne est la prophétie de prédestination. Car d'après saint Jean Damascène, Dieu a prédestiné ce qui n'était pas en nous. Ce qui n'est pas en nous. Ou bien elles sont soumises au libre arbitre de l'homme, c'est la prophétie de prescience. Cette prophétie peut se rapporter au bon et au mauvais. La prophétie de prédestination, au contraire, ne concerne que les bons. La prédestination étant comprise sous la préscience, une glose au début du psautier ne donne que deux espèces de prophétie. La prophétie de préscience et la prophétie de menace. Donc, vous voyez bien, trois espèces de prophétie. La prophétie de prédestination prophétie de menace porte sur la cause. L'ordre existe entre la cause et le fait. Si vous continuez de vivre comme ça, vous verrez ce qui arrivera. Prophétie de menace. Si vous continuez de vivre comme ça, vous verrez ce qui arrivera. C'est le prophète Jonas qui dit ça pour l'ennemi. Prophétie. La très très sainte Vierge dit aux enfants et à sa lettre, si vous continuez, vous verrez les menaces. Et ça continue. C'est ça, on la menace, et puis l'ordre. Donc il y a un ordre qui existe entre la cause et l'effet. La prophétie porte sur la cause en disant si, menace. Prédestination, elle porte sur une réalité future. De l'ordre surnaturel, qui dépend directement de Dieu, sans l'intervention de notre volonté directement. Qui dépend directement de Dieu. On est prédestiné à être enfant de Dieu. Prédestination, on peut avoir comme révélation que nous sommes prédestinés. On peut avoir comme révélation que Dieu nous aime d'un amour tel que, de fait, il veillera sur nous jusqu'au bout. Prédestination, prophétie de préscience porte sur quelque chose que nous pouvons modifier en fonction de notre volonté. Et ça dépend de notre volonté. Alors, voyons maintenant tout de suite, il n'y a pas de question, je crois que c'est assez facile, il suffit de comprendre, nous avons trois espèces de prophéties qui regardent tout de suite, et ça c'est vrai, vous les trouvez dans l'Écriture, ces trois espèces de prophéties. C'est bien évident, on ne les a pas inventées, on les a découvertes dans l'Écriture. Il y a la prophétie de menace, ça c'est sûr. Si vous continuez à vivre comme ça, vous verrez. L'amour de Dieu qui est là et qui nous poursuit, ça dépend de Dieu. Et puis, ce qui dépend de notre concours avec Dieu. Donc, à la première objection, qui consiste à dire que la prescience, elle est fondamentale à toute prophétie, donc elle n'est pas une espèce. C'est-à-dire que la prescience, elle est présente à toutes les prophéties, donc elles ne forment pas une espèce séparée. Saint Thomas répond, au sens propre, la prescience est la connaissance par avance des événements futurs, en tant qu'ils sont en eux-mêmes. C'est en ce sens qu'elle forme une espèce de prophétie. Même si l'on entend la prescience vis-à-vis des événements futurs, soit en tant qu'ils sont en eux-mêmes, soit en tant qu'ils sont dans leur cause, elle joue le rôle d'un genre par rapport à toutes les espèces de prophéties. La réponse, cet aspect-là est générique. Genre animal, raisonnable et irrationnel. Si vous avez deux aspects, prophétie de menace, ça sera pas une chose. Seconde objection, je lis la seconde objection. Si une prophétie peut contenir une menace, elle peut aussi porter sur une promesse. Ces deux sortes de prophéties s'entremêlent. Dans Jérémie, on lit en effet « Tantôt je parle touchant une nation, touchant un royaume, d'arracher, de détruire, de disperser. » Mais cette même raison, cette même nation, revient-elle de sa méchanceté. Alors je ne me repens, je me repens du mal que j'avais résolu de lui faire. Voilà la prophétie de menace. Et voici la prophétie de promesse. Tantôt je parle touchant une nation, et touchant un royaume, de bâtir et de planter. Mais cette nation fait-elle ce qui est mal à mes yeux? Alors je me repens du bien que j'avais parlé de lui faire. De même qu'il y a une prophétie de menace, ainsi faut-il admettre une prophétie de promesse. La prophétie de promesse, vous comprenez bien, c'est la prophétie de préscience, c'est une promesse. On regarde dans l'Écriture tout simplement les diverses manières dont de fait est transmise le message divin. Troisième objection. En outre, saint Isidore écrit dans son livre des étymologies, il y a sept formes de prophétie. La première est l'extase ou ravissement de l'esprit. Là, c'est une prophétie surnaturelle. Ainsi, Pierre, quand il vit une nappe envoyée du ciel, est remplie d'animaux divers. Une extase, un ravissement. La révélation, l'Apocalypse. C'est une extase, un ravissement. Deuxièmement, la deuxième est la vision. Tel est le cas d'Isaïe. J'ai vu le Seigneur assis, etc. La troisième est le rang. La troisième est le songe. Par exemple, Jacob qui vit une échelle pendant son sommeil. La quatrième est la nuée. C'est ainsi que Dieu parlait à Moïse. La cinquième est une vision qui vient du ciel, comme celle qui dit à Abraham, « ne touche pas à ton enfant. » La sixième est la parabole, tel fut le cas pour Balaam. Enfin, la septième est la plénitude de l'Esprit Saint. C'est le don qui existe dans presque tous les prophètes. Saint Isidore distingue aussi trois genres de visions. La première selon les yeux du corps, la deuxième selon l'imagination, la troisième par regard à l'esprit. Or, ces trois formes de prophétie ne sont pas exprimées dans la division ordinaire, la division de la glose que nous avons déjà citée. Elle est donc insuffisante. Donc voyez cette prophétie, cette division de la prophétie est un petit peu particulière. C'était ça en parallèle avec celle de la glose. Celle de la glose, on la comprend bien. Celle d'Isidore, comme souvent Isidore, hein. Il énumère, il en ajoute. C'est facile à comprendre. Hein. La première est l'extase. La prophétie au sens très large, il y a révélation. La deuxième est la vision. J'ai vu. Pas nécessairement parce que la vision n'est pas ici. La troisième est le son. C'est la modalité de la prophétie. C'est pas dire spécifique, mais la modalité, par exemple Jacob. La quatrième est la nuée, c'est une autre modalité. La cinquième, une voix qui vient du ciel, autre encore. La cinquième, une voix qui vient du ciel. Alors, face à celle-là, la sixième, oui, la sixième est une parabole, telle fut le cas pour Balaam. Enfin, la septième est la plénitude de l'Esprit Saint. C'est le don qui existe dans presque toutes les prophéties. dans presque tous les prophètes. Saint Isidore donc, distingue aussi trois genres de visions. Le premier selon les yeux du corps, le deuxième selon l'imagination, le troisième par l'esprit. Vous avez diverses divisions. C'est ça qui est toujours très difficile à bien comprendre. Alors qu'est-ce qui est divisé? Quand on a diverses divisions, il faut toujours être très attentif. Ça, c'est l'objection, vraiment ce que dit Saint Thomas. Saint Isidore divise la prophétie d'après les divers modes de révélation. Modalités diverses de la révélation, ce n'est pas objectif. On peut les distinguer selon les puissances cognoscitives de l'homme, les sens, l'imagination, l'intellect. C'est pourquoi Saint Isidore admet avec Saint Augustin trois espèces de vision. La distinction peut encore se prendre de la différence de l'influx prophétique. Quant à l'illustration de l'intelligence, la prophétie se caractérise par la plénitude de l'Esprit Saint, septième espèce de classification de Saint Isidore. Quant à l'impression des formes imaginatives, Saint Isidore signale trois sortes de prophéties. Le songe, la vision et l'extase. Donc, quant à l'impression des formes imaginatives, les sons, les visions et l'extase. Quant aux signes sensibles, il admet trois cas. Le signe sensible est ou bien une réalité corporelle apparaissante extérieurement à la vue, comme la nuée, quatrième espèce, ou bien une voix venant de l'extérieur, qui venant de l'extérieur à l'oreille de l'homme, cinquième espèce. J'entendis la voix des grands, la voix mugissante de la mer, c'est un apocalypse. Se retourne voir la voix, c'est à travers la voix. Ou enfin, des mots formés par l'homme pour indiquer une comparaison. C'est la parole. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment on peut diviser la prophétie. Il n'y a pas qu'une seule division. Celle-ci se prend du côté spécifique. Il y a une division qui se prend, donc, que Saint Thomas souligne, celle d'Isidore, d'après les divers modes de révélation. Une autre qui se prend à partir d'un fruit. Ça veut dire quelle est la vraie, quelle est la juste. C'est celle qui est dans le corps de l'article. Comprenez bien. Celle qui est dans le corps de l'article, c'est la division spécifique. Or, comme la prophétie est dans la connaissance, la division se prend du côté spécifique. Article 2. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est... Évidemment, on voit très bien tout ce que ça soumet. Une matière énorme. Alors, toute la prophétie, toutes les espèces de prophétie. Comment distinguer diverses espèces de prophétie? Alors, vous les divisez, vous bien, par le point de vue spécifique, par le point de vue du mode particulier, du mode de révélation. Vous pouvez distinguer par l'influx prophétique. Quels sont les trois que je peux prendre? Alors, article 2. La prophétie qui comporte une vision intellectuelle imaginative est-elle supérieure à celle qui ne comporte qu'une vision intellectuelle? Est-ce que c'est le propre de la prophétie d'impliquer le point de vue sensible? On l'a déjà vu, mais on va revenir ici dessus. Alors, je prends tout de suite cette contrainte. La glose dit au début du psautier, le mode de la prophétie le plus digne est celui qui se fait par la seule inspiration de l'Esprit Saint. sans le concours, sans le secours extérieur d'action, de parole, de vision ou de songe. C'est l'action directe de l'Esprit Saint. La dignité des moyens se prend surtout de la fin. Or, la fin de la prophétie est la manifestation d'une vérité qui est au-dessus de l'homme. Voilà pourquoi, dans la mesure où cette manifestation est plus haute, la prophétie est aussi plus digne. Mais il est évident que la manifestation de la vérité divine qui se fait par la pure contemplation de cette vérité l'emporte sur celle qui utilise le symbolisme des réalités corporelles. Elle se rapproche davantage, en effet, de la vision du ciel où la vérité est contemplée dans les sens mêmes de Dieu. Il s'ensuit que la prophétie où la vérité révélée est considérée toute nue dans une vision intellectuelle est supérieure à celle qui utilise le symbole des réalités corporelles dans une vision imaginative. C'est facile à comprendre, ça. C'est la qualité d'une prophétie se prend évidemment de la pénétration plus ou moins grande de la vérité avec laquelle l'on entend. Ça, c'est propre de la connaissance. Dignité des moyens se prend surtout de la fin. Et la fin de la prophétie, c'est la manifestation d'une vérité qui est au-dessus de l'homme. Alors, voilà pourquoi, dans la mesure où cette manifestation est plus haute, la prophétie est aussi plus haute. Parce que c'est la manifestation d'une vérité. Alors, il est évident que la manifestation de la vérité divine qui se fait par la pure contemplation de cette vérité l'emporte sur celle qui utilise le savoir. On appellera ça une prophétie intellectuelle. Une prophétie intellectuelle qui se fait purement de l'intérieur sans aucun symbolisme, sans aucun apport imaginatif et sensible. Elle montre en même temps que l'esprit du prophète est plus élevé dans l'enseignement humain. Dans l'enseignement humain, l'élève qui peut recevoir la vérité intelligible présentée à nu par le maître n'est-il pas regardé comme plus intelligent que celui qui a besoin du secours d'exemples sensibles? Bien évidemment, on va plus vite. Pas besoin d'examen de on remonte tout de suite. Quand vous découvrez ce que c'est qu'une induction, eh bien vous découvrez un principe, vous n'avez pas besoin d'exemple, c'est un principe tout de suite. C'est beaucoup plus élevé. Voilà pourquoi David a dit à la louange de la prophétie: le fort d'Israël m'a parlé, en ajoutant aussitôt: c'est comme la lumière de l'aurore dans le soleil levant par un matin sans nuage. C'est très beau. C'est comme la lumière de l'aurore dans le soleil levant par un matin sans nuage. Alors, on est immédiatement illuminé par Dieu. C'est une lumière qui vient directement de Dieu, qui vient intérieur immédiatement de Dieu, qui est par mode de contemplation. Alors, c'est la prophétie intellectuelle, celle-là. Alors, voyons tout de suite l'objection de la première objection. Sur ce texte de la première épître aux Corinthiens, l'Esprit révèle des mystères. La glose cite cette opinion de saint Augustin. Il est moins prophète celui qui ne voit dans son esprit que les images des choses à lui signaler, à lui signifier. Il est davantage celui qui n'a que l'intelligence. Mais il l'est au plus haut point, au plus haut degré, celui qui excelle dans ces deux genres. Or, dans ce dernier cas, il s'agit de prophètes qui jouissent à la fois de la vision intellectuelle et de la vision imaginative. Cette forme de la prophétie est donc la plus élevée. Réponse. Lorsqu'une vérité surnaturelle doit être révélée sous des symboles corporels, alors le prophète qui a tout ensemble, la lumière intellectuelle et la vision imaginative, est plus grand que celui qui a seulement l'une ou l'autre. Sa prophétie, en effet, est plus parfaite. C'est ce qu'a voulu exprimer saint Augustin. Mais la prophétie dans laquelle la vérité intelligible est révélée à découvert l'emporte sur tout. Donc oui, c'est ça comme réponse. C'est tout simplement, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de prophétie? C'est la prophétie qui touche le point de vue purement intelligible. La vérité intelligible, la vérité est un cœur. Mais s'il y a en même temps un aspect symbolique au point de vue sensible, très bien. Mais ce qui fait la noblesse de la prophétie, c'est justement d'atteindre des vérités intelligibles. Une prophétie qui reste uniquement au niveau symbolique est moins forte qu'une prophétie qui touche le point de vue de vérité. Simplement, c'est normal, c'est le niveau profond de la connaissance qui régit cela. Seconde objection. La puissance d'un être est d'autant plus forte qu'elle s'étend à des objets plus éloignés. Or, on le sait, la lumière prophétique intéresse principalement l'esprit. La prophétie qui descend jusqu'en l'imagination semble donc plus parfaite que celle qui reste dans l'intelligence. Cette objection, très simple, c'est l'influx prophétique est plus fort. Il touche l'esprit. Et puis il touche aussi l'imagination. Autrement dit, la prophétie d'Apocalypse qui touche l'imagination de façon remarquable et beaucoup plus grande que toutes les autres prophéties. Il faut juger différemment ce qui est recherché par soi et ce qui est recherché en nous. Et des que un autre jugement. Des choses qui sont cherchées pour elles-mêmes, des choses qui sont cherchées à cause d'un autre. En effet, dans ce qui est recherché pour soi, plus la puissance de l'agent s'étend à des réalités nombreuses et difficiles, plus elle est forte. Ainsi, un médecin est d'autant plus réputé qu'il peut guérir plus de personnes et ramener à la santé ceux qui en manquent le plus. La réputation du médecin amène des moribonds. Il va le sauver. Alors à ce moment-là, il est un grand médecin, il a sauvé des personnes qui étaient proches de la mort. Vous savez, si apportez au médecin quelqu'un qui n'a pas grand-chose, un petit bobo, pas grand-chose, ben, il le guérira, mais ça ne fait pas partie de sa réputation. C'est ça qui soignera avec moins de soin, celui qui soigne sa réputation, non, celui qui fait ça par pure miséricorde, alors c'est différent. Mais dans ce qui n'est recherché qu'en vue d'un autre but, moins nombreux et plus à la portée sont les moyens dont un agent se sert pour arriver à ses fins. Plus sa puissance est grande. Et c'est ainsi qu'on estime davantage le médecin qui, pour guérir un infirme, emploie peu de remèdes et des plus doux. Or, dans la connaissance prophétique, la vision imaginative n'est pas recherchée pour elle-même, mais seulement pour manifester la vérité intelligible. Par suite, la prophétie est d'autant plus haute qu'elle a moins besoin de cette vision imaginative. Une prophétie qui a moins besoin de symboles, moins besoin de vision imaginative, est plus parfaite qu'une prophétie qui en a besoin. Ce qui manque en Apocalypse n'est pas ce que plus parfait de notre prophétie. C'est vrai, c'est très imaginatif, c'est rempli de symboles. C'est moins parfait que lorsque Jésus nous révèle dans la prière sacerdotale, il n'y a pas de symbole. Très très curieux comme jugement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est pas du tout le jugement artistique. C'est le jugement de l'intelligence spéculative, de l'intelligence qui pénètre dans la vérité. Troisième objection. Saint Jérôme, dans son prologue du Livre des Rois, distingue les prophètes des hagiographes. Or, tous ceux qu'il nomme prophètes, Isaïe, Jérémie et d'autres semblables, ont eu en même temps qu'une vision intellectuelle, une vision imaginative. Mais il n'en est pas de même de ceux qu'il désigne sous le nom d'hagiographes, parce qu'ils écrivaient sous l'inspiration de l'Esprit Saint, tels Job, David, Salomon, et d'autres encore. Ne faut-il pas appeler prophètes, au sens propre, ceux qui ont une vision à la fois imaginative et intellectuelle, plutôt que ceux qui n'ont qu'une vision intellectuelle? C'est très intéressant de nager dans les prophètes et de voir dans les prophètes des degrés différents, des aspects plus ou moins, essayer d'ordonner ce domaine prophétique. Le prof du théologien a essayé d'ordonner et de saisir quel est le principe qui va permettre d'ordonner. C'est ça qui est intéressant. Alors, réponse. Rien n'empêche un être d'être meilleur dans un sens absolu, qui pourtant reçoit une qualification dans un sens moins propre. Ainsi, la connaissance du ciel est plus noble que celle d'ici-bas. Et cependant, la connaissance d'ici-bas reçoit plus proprement le nom de foi, parce que le nom de la foi, le nom de foi, comporte une imperfection de la connaissance. Il en est de même de la prophétie, qui suppose une certaine obscurité et un éloignement de la vérité intelligible. Voilà pourquoi on appelle plus proprement prophètes ceux qui ont des visions imaginatives. Bien que la prophétie qui se fait par vision intellectuelle soit plus noble, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'une même vérité révélée dans l'un et l'autre cas. Car si la lumière intellectuelle est donné à quelqu'un, non pour connaître certaines réalités surnaturelles, mais pour juger avec une certitude divine ce qu'il est possible de connaître avec la raison humaine. Alors, cette prophétie intellectuelle est inférieure à celle qui s'accompagne d'une vision imaginative conduisant à une vérité surnaturelle, prophétie dont on jouit tous ceux qui sont énumérés dans l'ordre des prophètes. Ceux-ci ont, en outre, été particulièrement appelés prophètes parce qu'ils ont rempli un office prophétique. Aussi parlaient-ils au nom de Dieu en disant au peuple « Voilà ce que dit le Seigneur. » Ce que ne faisant pas par la géographie, la plupart d'entre eux ont parlé le plus souvent, non au nom de Dieu, mais en leur propre nom, des vérités que la raison humaine peut atteindre, peut connaître, toutefois avec le secours de la lumière divine. C'est assez complexe comme réponse de saint Thomas. Au fond, c'est toujours cette même idée que si je regarde le point de vue prophétique en raison du conditionnement humain, c'est ce qu'il prend comme raison ici. Donc, en raison du conditionnement humain, en raison de la miséricorde, une prophétie est plus humaine, plus proche de l'homme, si elle implique un symbolisme imaginatif. Donc elle est plus proche. Mais une prophétie qui est purement intelligible ou purement intellectuelle est plus noble. Vous avez le parallélisme entre l'aspect de la connaturalité avec l'homme et l'aspect de la noblesse, de la qualité. Quatrième objection. D'après le pseudo-Denis, il est impossible qu'un rayon divin nous éclaire s'il n'est pas enveloppé de voiles sacrés. Or, la révélation prophétique se fait par l'émission d'un rayon divin. Il semble donc que cela ne se peut si elle n'est pas enveloppée du voile des images. Réponse. Les rayons divins en nous, ne nous éclairent pas dans la vie présente sans être voilés de quelques images. Dans cette vie, n'est-il pas en effet naturel à l'homme de ne rien comprendre sans images? Parfois cependant, il suffit des images abstraites des sens suivant le mode ordinaire. Il n'est pas nécessaire qu'intervienne une vision imaginative formé par Dieu. C'est ainsi que la révélation prophétique peut se faire sans une vision imaginative. On voit très bien se faire parce que la vision intellectuelle est supérieure, le supérieur ne dépend pas nécessairement de l'inférieur. Donc il peut se séparer. Tandis que toute vision imaginative, si elle n'est pas liée à une vision intellectuelle, ne peut pas être prophétique. Elle n'est prophétique que si elle a quelque chose qui atteint la vérité ou un lieu intelligible. Vous voyez ça, c'est assez complexe, relisez-le attentivement. C'est intéressant pour essayer, c'est un effort de classification de la prophétie. Dans les divisions, c'est toujours intéressant sur ce point de vue-là, parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il y a de commun, quel aspect générique de la prophétie. Vous voyez, saint Thomas l'a nommé au point de départ, c'est la connaissance divine qui nous est communiquée, une connaissance divine que nous ne pourrions pas atteindre par nos propres forces. C'est toujours ça qu'il faut voir. Je vous dis, c'est ça qui est très très net à Rome. Je l'ai vu en portant des notes de personnes qui ont des visions, qui ont des révélations. Alors je me souviens très bien avec le père Chiappi, qui est dominicain, qui était le jeune du Saint-Père, son jugement. Il m'a dit, c'est très beau tout ce qu'on m'avait donné à lire, mais rien n'échappe au mode naturel de connaissance d'une âme pieuse, qui peut avoir envie, qui peut avoir des horizons, qui a fait des études de théologie, et qui peut parler de cette manière-là. Je n'ai rien vu qui soit proprement prophétique. Donc, ça ne relève pas d'un charisme. Je n'ai rien vu qui soit proprement prophétique ou qui relève, si vous voulez, d'une révélation qui ne pourrait pas s'expliquer par les simples forces humaines. C'est très très juste comme raisonnement. Oui. C'est très très juste, ça montre exactement où, à quel moment, vous entrez dans la connaissance prophétique. Autrement, vous n'entrez pas dans la connaissance prophétique. Alors, dans cette connaissance prophétique, vous voyez la diversité. Une connaissance prophétique purement intelligible, une connaissance prophétique liée à des images et des symboles qui permettent une explicitation, un développement plus grand.